Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à Andalous sur Divergence FM 93.9. Alors, il n'y aura pas que pour les neurones des auditeurs de Divergence FM, mais il y aura aussi pas mal de choses pour les oreilles des douceurs et des gentlemen de Divergence FM. Alors aujourd'hui, donc, à la magie technique, le directeur d'antenne, Gilles Gouget.
Ouais.
Et puis, chaque samedi, c'est plus à 10h maintenant, c'est à 10h30, Modesto Jamal qui passera donc des moments de bonheur avec vous jusqu'à midi moins le quart. Dans cette émission, nous allons parler donc de la fête du cinéma méditerranéen. Donc, il s'agit donc de la 31e édition du CINIMED, le Festival international de cinéma méditerranéen de Montpellier. Il y aura pas mal de reportages sur des films en compétition, sur des avant-premières. Et j'aurai le bonheur donc d'être accompagné par le clairvoyant et monsieur cinéma de Divergence FM. Il s'agit du présentateur de Cinérama. Voilà, c'est Vincent Pourrajour. Avant de commencer donc cette émission, il y aura pas mal de reportages. Nous allons vous mettre donc un petit décrochage musical avec un nouveau donc titre de Majid Bekkaas Chadié.
Thank you.
Alors nous sommes le 31 octobre, n'est-ce pas? Et avec moi, donc, Vincent Pourageau, donc monsieur cinéma de Divergence FM. Voilà, nous allons essayer donc de vous mettre donc dans le bain de cette grande fête du cinéma méditerranéen. Bonjour Vincent.
Bonjour Jamal et merci de me recevoir dans ton émission.
Bah, écoute, le bonheur est pour moi. D'abord, comment tu as vécu donc cette semaine qui n'est pas encore terminée, hein?
Eh bien, c'est à chaque fois intense parce que forcément, il y a beaucoup de réalisateurs. On a énormément de choix parce que c'est plus de 230 films, que ce soit documentaires, courts-métrages, films expérimentaux. Il y a 130 longs-métrages, ce qui est énorme. Enfin, t'as bien vu comme moi que pour faire son programme chaque jour, c'est une difficulté parce que les horaires se chevauchent. Il y a 5-6 salles, enfin bon, c'est compliqué. Donc voilà, moi, il faut que je jongle entre les interviews et puis voir les films. Parce que si on va vers un réalisateur et qu'on n'a pas vu son film, voilà, soit il le sent, soit on arrive à le déguiser qu'on ne l'a pas vu, soit... voilà.
C'est...
mais en
c'est
général,
très difficile quand même d'interviewer...
Disons que ça dépend quel sujet, mais si on veut l'interroger sur le thème de son film, c'est évident qu'il faut le voir, et puis exactement. C'est par respect, et puis lui, ça lui fait plaisir.
Et là, ce que tu dis, Vincent, il y a même, moi, j'ai discuté avec certains ciné-spectateurs, et c'est vrai, la difficulté, c'est faire son choix. Je me demande s'il ne faut pas carrément des conseillers, comme on en trouve, par exemple, à la gare, qui peuvent guider donc, les gens. Hein. Il faut franchement des gens qui peuvent plus ou moins... éclairer les gens, parce que c'est très très riche. Bon, le bonheur aussi, c'est aussi un bonheur. Il ne faut pas quand même se priver de cette richesse et de cette diversité.
Ben ça, c'est une question que j'avais posée à Jean-François Bourgeot, parce que je l'avais interviewé un peu en amont du festival. Je lui avais demandé, mais finalement, est-ce que ce n'est pas trop, 230 films ? Et lui, il pense que non. Il pense que c'est le rôle vraiment d'un festival de proposer la diversité et que voilà, que c'est après aux spectateurs de choisir. Alors c'est peut-être aussi le rôle de la presse, des médias, nous en tant que radio, d'aiguiller un peu le spectateur s'il sait pas quoi aller voir. Mais en même temps, le programme est bien fourni. Je trouve qu'il voilà, il met bien en valeur les films et chacun y va de sa sensibilité hein, pour choisir sa séance, enfin, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Enfin, je trouve que c'est... Moi, c'est un des rares festivals. Alors, je ne vais pas à Cannes, parce que Cannes, c'est encore pire. Mais c'est un des rares festivals où il y a autant de films, quand même, au cinéma.
Ouais. Bah, écoute, on va commencer par le premier film qui a été donc, projeté en avant-première. Le film Haragas, en arabe, Haragas, ça veut dire les brûleurs, ceux qui traversent donc clandestinement la Méditerranée pour aller donc du côté nord, donc au paradis. Hein, donc, on a vu tous les deux donc le film Haragas. On va juste d'abord passer donc la présentation de ce film par le directeur du festival, Jean-François Bourgeot.
On va d'abord commencer par la parole. Que je prends en premier pour vous annoncer le plaisir que j'ai évidemment de présenter ce film qui est doublement cher à notre cœur puisqu'il est réalisé par un ami de longue date dont on aime le cinéma depuis toujours et depuis ses premiers pas de cinéaste. Je vous demande d'applaudir Monsieur Mirza Kalwash. Merci. La deuxième bonne raison, ben c'est que ce film, d'une certaine façon, appartient à ce qui est, comme vous appelez, la nouvelle politique de la région en faveur du cinéma. Et donc, il a bénéficié du soutien financier, économique, logistique de la région. Vous savez que la région s'est dotée d'une association particulière, l'association Languedoc-Roussillon Cinéma, qui travaille, je dirais, bien, efficacement, pour que de plus en plus de films viennent tâter un peu de la lumière du Languedoc-Roussillon pour se faire et pour exister. C'est le cas en partie du film de Merzac, pas complètement, pas totalement. Ce film s'inscrit dans une volonté politique de notre région, mais s'inscrit surtout dans une tradition artistique et un geste artistique. Ce geste artistique, cette proposition d'un cinéma qui nous touche beaucoup parce qu'il renvoie à des thèmes majeurs ces dernières années du cinéma méditerranéen, peut-être du cinéma mondial aussi, mais beaucoup méditerranéen. Comment partir de son pays, comment arriver dans un autre pays, désigné éventuellement comme un Eldorado possible, comment risquer cette traversée, enfin comment être ballotté par les économies, par la situation, et cette chose-là qui est une chose grave, qui est, je dirais, indéfiniment retravaillée et remise en question, reproposée par le cinéma. J'aime beaucoup, moi, ce film, je vais donner bien sûr la parole à Merzac qui va vous en parler, mieux que je ne pourrais le faire, mais moi j'aime beaucoup ce film parce que je pense que c'est un film qui est... Enfin, l'expression, elle est un peu... Je ne sais pas si tout le monde utilise, mais c'est quelque chose qui est près de l'os. Il n'y a pas de gras. Enfin, c'est un film sans gras, c'est un film qui va à l'essentiel directement, à la fois sur ce qu'il a montré dans une mise en scène de l'espace et de la traversée, mais aussi par rapport à ses personnages. Je trouve qu'il n'y a pas d'affaîtrie, il n'y a pas d'effet, il y a une très très belle, très très belle sécheresse du récit. Voilà, c'est un récit qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Je suis heureux de le montrer ici en avant-première. C'est un film qui vient d'avoir un prix à Valencia. La productrice est à Valencia pour toucher ce prix. C'est un film qui est un distributeur, Libris Film, qui sera en salle en France le 24 février. Donc vous connaissez votre mission maintenant, hein, je radote un peu, mais si vous l'avez aimé, vous le dites au moins à 3 personnes différentes de vos connaissances pour qu'ils aillent le voir le 24 février, pour être sûr qu'ils y aillent, vous y retournez avec eux.
Voilà donc Merzac Alouache, le réalisateur donc, de ce film Aragar, c'est le grand réalisateur donc, franco-algérien, l'un de ses films mythiques, qui s'appelle Getlatou, hein, c'est l'histoire donc d'un jeune fonctionnaire en Algérie, à travers le jeune fonctionnaire qui raconte vraiment toutes les facettes de la société algérienne et à travers la société algérienne, la société maghrébine. Et c'est vraiment, c'est un grand réalisateur. Alors, on va aussi passer la présentation donc de film Araga par Merzac Alouache lui-même.
Écoutez, effectivement, ça me fait très plaisir de présenter ce film ici, dans un festival méditerranéen. C'est une avant-première. Malheureusement, aujourd'hui, la Méditerranée est une mer de tristesse. Et donc, ce film est un film sur la tristesse, sur le désespoir. Alors, effectivement, j'ai été très content de pouvoir avoir le soutien de la région, de pouvoir avoir le soutien de France 2, de Canal+, d'avoir une coproduction française sur un sujet qui ne concerne pas directement la France. Ce n'est pas un film français, ce n'est pas un film sur la France, mais c'est un film qui parle d'une situation où la France est aussi concernée, puisque la France est un pays méditerranéen. Et donc, j'ai tourné une partie du film en Algérie et j'ai tourné une autre partie du film ici, pas loin, à Frontignan. Et donc, dans cette salle, il y a des techniciens de la région que j'ai retrouvés. Hier, j'ai présenté le film en avant-première à Frontignan, dans ce petit port où on a travaillé l'an dernier, en hiver. Et donc, pour dire quelques mots sur ce film, c'est un film que j'ai voulu être un espèce de témoignage sur une situation dramatique, une situation que les gens vivent de plus en plus mal en Algérie, mais aussi dans tous les pays du Maghreb, en Afrique. Et j'ai voulu parler de ces nouvelles routes clandestines qui se sont mises en place et qui fonctionnent très bien, de plus en plus. Sauf que la majorité des gens qui empruntent ces routes qu'ils soient des jeunes ou des moins jeunes, n'arrivent pratiquement presque jamais jusqu'au bout. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est devenu un cercueil pour ces gens qui traversent à la recherche de ce bonheur, de cet Eldorado. Alors, ce n'est pas un film qui parle beaucoup des causes de ces départs, tout le monde les connaît. C'est un film qui parle de l'enfermement, parce qu'il y a une espèce d'enfermement dans nos pays, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Pour vous donner un petit exemple, dernièrement, nous avons présenté le film à Venise et nous avions des invitations et deux de mes acteurs n'ont pas pu avoir les visas pour y aller, l'actrice et l'acteur. Et donc, ils ont eu la rage parce qu'ils ont vécu une espèce d'enfermement, quoi. C'est-à-dire sans raison, le visa a été refusé, il leur a été donné quelques jours après, ils n'ont pas pu assister à une projection dans un festival. Donc, il y a des jeunes un peu partout dans nos pays qui ont envie de sortir aussi pour voir autre chose et revenir dans leur pays, quoi. C'est pas seulement des gens qui veulent partir pour toujours. Voilà.
Merci. Voilà, donc après l'intervention de Merzak Alouache, c'est le tour de l'interview réalisée par Vincent. Alors, il s'agit de quoi, Vincent ?
Alors moi, j'ai réalisé cette interview avant d'avoir vu le film, parce que la projection avait lieu ce dimanche à 21h30. Il se trouve qu'on n'a pas pu avoir, d'ailleurs, Merzak Alouache. Il nous a posé un lapin, comme on dit.
Il n'est pas venu.
Il devait être présent le lendemain, après qu'on ait vu son film, répondre aux questions des journalistes.
C'est pas bien, Merzak Alouache.
Voilà, il n'est pas venu. Et d'ailleurs, ses acteurs savaient très bien qu'il ne viendrait pas. Voilà, comme quoi il a ses petites habitudes de
Mais toi, tu as anticipé et tu as eu...
Avec les acteurs, seulement. Ouais. Donc là, l'acteur qu'on va entendre, c'est un franco-algérien qui vit à Marseille. Parmi les trois qui étaient présents, les trois acteurs, c'est le seul qui vit en France. Lui, il avait une parole un peu plus libre d'ailleurs que l'actrice, qui avait un peu peur de parler. Enfin, visiblement, elle ne voulait pas que ça se retourne contre elle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette interview. Et bah, il va revenir sur son personnage et puis les difficultés du tournage, puisque, comme Merzak Alouache l'a dit, ils ont tourné en plein hiver, sous la neige, à Frontignan.
Ben Ahmed Abdelatif, acteur dans le film Haraga de Merzak Alouache, le rôle de Ali. Mon personnage dans le film, je suis avec un groupe de 5 personnes qui viennent du sud de l'Algérie, qui veut essayer de faire l'aventure de ce phénomène Haragas, les brûleurs, ceux qui traversent la mer clandestinement pour refaire leur vie en Europe ici, voir les lumières de l'Europe, comme on dit. Et moi, je suis entre eux comme si un mec qui n'a pas le courage, d'après les problèmes qui se suivent dans le film, les événements, les problèmes, les risques, je suis encourageux, quoi. Après, je prends des pressions nerveuses et tout. Voilà, et à la fin du film, je suis ici, j'essaie de nager, bien que je ne me nage pas, parce que les gens de Sahara, de sud de l'Algérie, ne savent pas nager. Donc, malgré tous les risques, ils ont accepté de faire cette aventure et d'avoir... Enfin, c'est, comme on dit, on a bien ressenti le rôle, on a tourné dans des dures conditions. C'était l'hiver passé, le mois de janvier, il faisait beaucoup froid. En Algérie, ici, c'est encore pire. Enfin, en France, c'était assez à Frontignan. On était dans un tournage bien sécurisé, tout le monde est entouré de nous et on avait peur. C'est ça quelque chose comme on dit qui est très très important, et c'est des sentiments qui on trouve pas dans des autres rôles. Et en plus, on a ressenti le rôle, on a bien fait le rôle par rapport à des témoignages, par rapport à moi par exemple, j'ai mes copains qui sont faits comme ça, il y en a qui sont maintenant décédés, il y en a qui sont réussis.
Donc ils ont vraiment pris ces barques.
Quand j'imagine et je me souviens d'eux, donc ça m'a donné le courage de bien donner le rôle, de bien jouer le rôle, de bien travailler dans le rôle. Et je parle de moi et je parle aussi de mes copains, il y en a qui ne sont pas là dans ce festival. mais les autres comédiens, parce que tout le monde, presque les 5 ou 6 comédiens, ils sont dans la région de Mostaganem, la ville, le phénomène qui, jusqu'à maintenant, il existe ici à Mostaganem, parce que Mostaganem, elle a la plus grande partie de côte dans l'Algérie, plus de 25 kilomètres. Donc tellement la côte elle est large, donc il y aura plusieurs possibilités. Les gens, les jeunes, ils trouvent les possibilités de traverser sans se contrôler, sans se pouvoir. Voilà.
Voilà, donc après on a parlé de la situation effectivement un peu plus précise de ces Aragas, puisque lui il en connaissait, donc c'est évidemment quelque chose qui le touchait. Voilà.
Ben écoute Vincent, on va donc proposer à nos auditrices et à nos auditeurs, et puis avec l'aide de notre réalisateur d'aujourd'hui, directeur donc d'antenne, Gilles Gouget, qui va nous montrer des extraits du film pour nous mettre vraiment dans l'ambiance des Haraga.
Je m'appelle Rachid. Ce n'est pas mes pieds que vous voyez là. C'est les pieds de Omar, mon meilleur copain, qui a décidé de nous quitter. Comme ça. Sans nous prévenir. Ce jour-là, c'était pour nous un jour de malheur. Louis et Nasser, notre meilleur copain. On a grandi dans la même cité. Nasser, c'est le beau gosse du quartier. Omar, lui et moi, tous les trois, on avait décidé de brûler. Brûler, c'est partir. Disparaître de ce pays, effacer le passé, comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après nous.
Cher Sorim, voilà, je pars enfin. Trois fois qu'ils me rattrapent, cette fois ils ne pourront pas. En écrivant ces mots, j'ai une drôle d'impression. Je ne comprends pas comment ça s'est installé dans ma tête. Mon pays, devenu une tache noire qui a grossi jusqu'à envahir mon cerveau. Ma chère sœur, tu te rappelles ce que je t'avais dit quand tu voulais m'empêcher de partir? Si je pars, je meurs. Et si je ne pars pas, je meurs. Alors je pars sans partir. Et je meurs. C'est plus simple.
Rachid.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ton copain Omar.
Ouais, qu'est-ce qu'il a?
Il s'est suicidé.
Quoi?
Voilà donc quelques extraits donc du film et surtout le récit donc de l'un donc des acteurs qui s'appelle Rachid dans le film, mais dont le vrai nom c'est
Nabil
Asli, oui. Voilà donc et c'est lui donc qui habite c'est le franco algérien, non
le franco algérien, c'est celui qui au bout d'un moment est malade, est déjà malade avant le départ, et ça va pas s'arranger sur les barques, et effectivement comme il le dit, il va se suicider parce qu'il va plonger, il voudra pas rester sur cette barque alors qu'ils sont seuls perdus en Méditerranée. Et qui voit les côtes espagnoles, en fait, voilà. Alors, on ne racontera pas la fin, hein, parce que...
Oui, il faut le voir, ce film.
Mais il y a une séparation du groupe, en tout cas, à un moment donné, il y a une séparation du groupe, voilà.
Voilà. Il faut quand même dire que c'est vrai, du point de vue, j'allais dire, du point de vue artistique, il y a quand même quelques faiblesses donc, dans le film. Mais c'est très difficile parce que d'abord, les acteurs, ce ne sont pas des acteurs très connus. Hein. Ce sont des acteurs, des jeunes acteurs issus donc du théâtre, et arriver donc à faire jouer donc des rôles très, très durs et très importants à ces acteurs par Merzak Alwa, je trouve que c'est plus qu'une grande performance. Hein.
Bah moi, je dirais que c'est pas les acteurs qui posent problème. Moi, c'est plutôt la forme du film, c'est plutôt son scénario. J'ai l'impression qu'il avait, effectivement cette histoire qui est intéressante, qui est une histoire humaine, qui est une histoire très 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 moderne dans l'air du temps, enfin l'immigration, la traversée de la Méditerranée. Mais j'ai l'impression qu'après il a voulu plaquer une histoire, mais qui prend pas consistance en fait, parce qu'on sait très peu de choses sur ces personnages. Notamment, moi j'aurais aimé, enfin un meilleur éclairage sur ceux qui viennent du Sahara, qui ont traversé. Eh bien, tout le désert pour arriver aux portes de la Méditerranée. Alors, parce qu'on voit bien les jeunes de Mostaganem, ça, il n'y a pas de souci, il les décrit bien. Mais les autres, après, bon, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent vraiment, ce qu'ils ont fait avant. C'est juste une ou deux phrases dans le récit. Et puis, il a surtout mis une espèce de recette scénaristique pour nous faire plonger dans une espèce de thriller, parce qu'il y a cet ancien flic qui, au bout d'un moment, arrive et menace de tout mettre par terre et fait son fasciste, son chef sur la barque avec un pistolet. Ça, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire.
C'est un peu tiré par les cheveux, parce quand on discute avec des gens, on en connaît ici à Montpellier, pour ne pas... des gens qui ont fait la traversée, mais en fait, au moment de la traversée, il y a une grande solidarité, sauf lorsqu'il y a un pépin. Alors là, à ce moment-là, c'est j'allais dire, sauf
le chaos.
Qui peut. Hein. Donc c'est le chaos,
c'est
l'instinct de la survie. Alors, mais en général, il y a une grande solidarité. Et c'est vrai, donc, introduire ce policier qui était avec le régime et qui a dû faire, donc,
Tout un tas de saloperies. Hein,
tout un tas de saloperies, voilà. Des crasses, pour ne pas le dire, et qui veut lui aussi donc quitter l'Algérie pour...
Ça sortira au mois de février.
Voilà, il sortira donc le mois de février. Alors voilà donc le film Aragas de Merzak Alouache qui sortira donc le mois de février. Alors on va faire une petite pause musicale. À vous.
Waliden ale ni sodi anale ni waliden ale waliden zaramayo waliden ale jaga here na toeni waliden ale waliden zaramayo nebe segen fefena Okela e de kelengoso Nebe de gun fefena Okela e de kelengoso Kanata kanto ne koso kono kabo Kanata kanto nyana fimbelela Kanata kanto kalo di vi kabo Kanata kanto ne kerembezira Mananda kamiri 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 Walide wane dube yere yere Manansigi kamiri 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 Walide Mone jabetige Mana wili Kamiri 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 Walide Mone dabali beban Quand tu es dans le village C'est la fête partout Walide chérie Quand tu es dans le quartier C'est la joie partout Walide chérie Quand tu es dans Walidé chérie Toutes mes souffrances C'est pour toi, pour ton seul bonheur Tous mes ennuis C'est pour toi, pour ton seul bonheur Toutes mes galères C'est pour toi, pour ton seul bonheur La maison est si grande, je t'en supplie, chérie, ne me laisse pas seul. Seul dans mon lit, chérie, je ne peux pas tenir, tu vas me manquer, chérie. La dans ma chambre. Walidé, mon cœur tremble. Quand je m'assois seul dans ma chambre, Walidé, j'ai des frissons. Dès que je me lève et que je pense à toi, Walidé, je suis ému. Walidé, n'allez ni sorti à la toine. Walidé, n'allez.
Walidé, zaraway.
Walidé, n'allez. Kumaka, kumana toine. Walidé, n'allez.
Walidé, zaraway.
Walidé, n'allez. Jaga, heré, na toine. Walidé, n'allez.
Walidé, zaraway.
Je voudrais bien.
Divergence FM 93.9, l'émission Andalous est consacrée donc au Festival international du cinéma méditerranéen Cinémed, qui est donc à sa 31e année. Avec nous, Vincent Pourageau, monsieur cinéma donc à Divergence FM. Et puis, le bonheur est, j'allais dire, plus que double. Enfin, Sébastien Nègre, qui est donc journaliste et... toujours un divergent de cœur et qui est actuellement au Canada, hein, et qui vient spécialement pour couvrir le festival méditerranéen. Alors d'abord, bonjour Seb.
Bonjour Jamal.
Alors on va d'abord avant, juste un petit mot, donc ce retour temporaire à Montpellier. Comment tu te sens à Montpellier ?
Ah ben moi je suis d'ici, donc forcément quand je reviens, je reprends mes petits repères. Après c'est sûr, c'est comme tous les gens qui voyagent et qui nous écoutent et qui ont cette habitude-là, il y a forcément des choses qui marquent et ça permet de prendre du recul quand on revient sur le comportement des gens, sur la manière dont une ville fonctionne, dont elle est faite, etc. Si on dit deux mots sur Montpellier, c'est vrai que les rapports humains sont quand même beaucoup moins respectueux que dans beaucoup d'endroits où je suis allé au final. Et par contre, il y a un centre-ville piéton et ça c'est quand même quelque chose de très rare et de très appréciable humainement parlant. Il y a le bon, il y a le mauvais.
Tu travailles toujours, donc tu es dans le domaine de la radio là-bas, le journalisme. Alors une petite comparaison par rapport à Montpellier.
Entre les radios d'ici et de là-bas ?
Oui.
Il y a plus d'argent là-bas.
Et le contenu ?
Sinon sur le contenu, les approches sont pas les mêmes. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui s'en rappellent peut-être au mois de juin, Divergence FM a fait une campagne de fond qui est largement inspirée de ce qui se fait déjà au Québec depuis très longtemps dans à peu près toutes les radios associatives qu'on appelle les radios communautaires là-bas, c'est-à-dire faire des dons, des appels aux dons, mais de manière un peu originale. On va organiser des émissions exceptionnelles en dehors de la radio, on va organiser des concerts, on va essayer de trouver des partenariats avec différents commerçants qui, plutôt que de simplement donner de l'argent à la radio, vont donner des biens ou des services directement aux auditeurs. Et du coup, c'est aussi une manière de soutenir la radio et de donner un certain dynamisme et de faire rentrer de l'argent pendant 2-3 jours de l'année, qui sont des temps très très forts et que là-bas, on appelle généralement tout le temps des radiotons. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup moins présent et existant en France.
Voilà donc, après cette belle histoire qui continue encore de Sébastien,
oui.
Donc, au Québec, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, retour donc au Cinémed, tu es en train de couvrir donc ce festival parce que tu en fais partie donc des rédacteurs, j'allais dire des journalistes qui nous font chaque jour ce journal du Midi Libre destiné donc au Cinémed.
Voilà, une petite différence quand même avec vous deux, Jamal et Vincent Pourageau, c'est que vous êtes journaliste extérieur et vous couvrez le festival. Moi, je fais partie intégrante de l'équipe du festival, donc je ne suis pas vraiment journaliste, je suis plutôt rédacteur, on va dire. Et on est deux, je suis un des deux, à travailler sur le journal interne au festival qui raconte les films, les programmations, etc. Donc c'est un bulletin d'information quotidien, on va dire ça plutôt, ça comme ça. Et mon malheur, entre guillemets, comme la plupart des gens de l'équipe du festival, c'est que quand on bosse pendant 10 jours sur un festival, on n'est pas les mieux placés pour profiter réellement des films et en voir. C'est pas la meilleure période pour voir des films, paradoxalement parlant.
Donc voilà, donc après nos regards extérieurs, Vincent, qui est en fait le vrai spécialiste du cinéma ici à Divergence.
Qui lève les yeux au ciel,
voilà,
justement.
Voilà, Jamal, c'est un amoureux donc du cinéma, tout court. Alors, le regard de quelqu'un qui vit Le Festival de l'Intérieur. Comment tu vois cette édition CineMed 2009 ?
Du point de vue des stagiaires déjà, est-ce que les stagiaires, ça c'est important.
Alors si on prend la base et si on parle...
Non, parce que Jamal, moi je l'écoute Sébastien parler, oui on est très pris, mais lui il est en direct, directement en contact avec les stagiaires. Voilà.
Alors si on veut dire deux mots là-dessus, effectivement le Festival Méditerranéen, comme plusieurs festivals à Montpellier, a parmi ses qualités le fait d'être composé énormément de femmes, de jeunes femmes, souvent de belles femmes. Évidemment avec Vincent on en a parlé l'autre jour,
c'est
pour ça qu'il me tacle en direct, mais oui effectivement il y a quand même beaucoup de belles femmes, mais c'est pas non plus la seule spécificité de ce festival.
Voilà, donc on a parlé de l'accueil, ça c'est
voilà, ça c'est l'accueil bien. Professionnel, public, etc., des beaux sourires, des beaux corps, et puis on passait sur le fond, c'est-à-dire le cinéma. Il y a quelque chose qui est à noter, qui est intéressant cette année, c'est que c'est la première fois que le Festival du cinéma méditerranéen fait des partenariats avec des cinémas extérieurs, avec le Royal, avec le Gaumont, avec l'Utopia, avec Diagonale, etc., ce qui n'avait jamais été fait. Donc il y a des films de la programmation qui sont projetés en extérieur. C'est intéressant parce que ça crée un lien entre ces cinémas-là et le festival, qui est le gros festival de cinéma, on peut même dire au moins au niveau régional. Donc ça crée des liens particuliers qui n'existaient pas avant. Je me rappelle, il y a à peine peut-être 5 ans à peu près, il y avait des relations très très conflictuelles et un peu bizarres entre le Diagonal et le Festival Méditerranéen, où chacun avait l'impression de faire un peu concurrence à l'autre. C'est très bête comme comportement, et surtout... ça ne créait pas d'émulsion parce qu'en fin de compte, c'est deux structures qui présentent le même type de cinéma quand même.
Mais il y a quand même un petit souci. Enfin, je pense à Antoine, donc le directeur Périniguez du Diagonal. Parce que là, il y a eu une avant-première, c'est celle de Xavier Giannoli, à l'origine, donc un film qui a été projeté ce jeudi et qui va sortir le 11 novembre. Donc une projection avant-première à l'Opéra Berlioz, c'est, on va dire, plus de 500 personnes, enfin je pense, à chaque fois dans la salle. Et donc ça, c'est 500 personnes qui viendront en moins dans
les salles du
Diagonal. Donc là, on est d'accord qu'il y a quand même une espèce de concurrence à faire des avant-premières si proches, en fait, de la sortie nationale. Voilà, c'est juste le petit bémol, effectivement, même si cette année, effectivement, ils se sont tous arrangés entre eux et c'est plutôt pas mal.
Oui. Si on enchaîne sur autre chose, il y a aussi l'aspect par rapport au documentaire qui est assez présent. Il y a pas mal de documentaires qui étaient intéressants cette année. Et en même temps, par rapport au court-métrage, puisqu'on veut balayer assez rapidement, par rapport au court-métrage, il y a quelque chose qui m'a surpris. Moi, j'en ai très peu vu. Je ne sais pas ce que Vincent en pense, mais j'ai entendu à plusieurs reprises que cette année, la programmation des courts-métrages n'était vraiment pas terrible. C'était un niveau assez peu exigeant, assez peu intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent.
Moi, j'en ai vu qu'un parce que j'ai interviewé le réalisateur. Donc, je ne me suis pas du tout concentré sur les courts métrage, contrairement aux années précédentes. Mais moi, je suis souvent déçu, de toute façon, par les sélections de courts-métrages. Dans plusieurs, pas seulement au CinéMed, mais c'était le cas au Festival d'Alès aussi. J'ai été atterré de voir le niveau, quoi.
Alors, si vous le permettez, on va donc commencer par le commencement. On va d'abord parler donc de la sélection officielle des longs-métrages en compétition. Il y a 12 films, hein. Il y a donc un film qui nous vient de la Bulgarie, la Croatie, il y a l'Égypte, l'Espagne, la Grèce, Israël, l'Italie, la Serbie, la Syrie et la Turquie. Donc c'est vraiment...
C'est un festival qui recouvre la cinématographie de 22 pays. Pour préciser un peu le contexte géographique. Sur la sélection officielle, sur la compétition des longs métrages, dont on aura les prix ce samedi soir, moi j'ai pas mal entendu parler d'un film qui s'appelle 1-0, un film égyptien de Kamela Abou Sekri, qui raconte l'histoire d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2008, il y a un an. Et puis en fait, c'est 8 personnages qui sont impliqués dans des situations difficiles, qui compliquent encore des vies déjà difficiles. Bref, c'est autour du football, ça raconte le quotidien égyptien. Moi je l'ai pas vu, mais on me l'a beaucoup conseillé si certains veulent ne pas rater ce film, 1-0. C'est un film égyptien.
Moi, je l'ai vu. C'est un très bon film. Alors, la réalisatrice Kamela Abou Sekri, que j'ai interviewée, l'interview donc dure plus de 40 minutes.
Où tu étais noyé dans ses yeux, je me rappelle, quand tu faisais l'interview.
Elle était vraiment charmante, alors dans les deux sens. Et en plus, dans cette interview, nous avons débordé au-delà donc, du film. Elle m'a livré donc, ses impressions sur la société égyptienne. C'est vraiment... j'allais dire une grande dame, ou bien pour utiliser le terme qu'on utilise ici à Divergence, c'est une grande gazelle donc, du cinéma, avec ce regard à la fois constructif et très critique vers ce qui se passe donc, dans son pays, et puis cette ouverture vers donc, le monde extérieur. Alors, elle utilise donc la finale de la Coupe d'Afrique gagnée par l'Égypte en 2008 comme prétexte pour parler donc de plusieurs personnages qui représentent les différentes catégories sociales de la société égyptienne. Alors, on en voit donc des familles riches, des pauvres, et puis donc chacun donc vit ses problèmes. Et au moment de la finale de la Coupe d'Afrique, alors tout s'arrête et tout le peuple égyptien fête donc cette victoire qui a été gagnée par l'Égypte contre le Cameroun en 2008.
Et ça a été tourné longtemps après ou pendant ou...
Alors ce film, le projet, comme a dit donc Kamela donc a beau écrit, qu'il datait de, ça fait plus de 4 ans, et il aurait dû être sorti donc en 2006, parce que l'Égypte a gagné aussi la finale de la Coupe d'Afrique en 2006, et puis manque de financement. Et comme c'était un film qui sortait un peu, c'était pas un film commercial, c'est un film très réfléchi, hein. Donc il a été reporté et voilà, il est sorti après 2008. Et elle m'a dit, elle a de la chance que l'Égypte a regagné encore la finale, sinon le film serait tombé à l'eau, ce qui était donc dommage. Sébastien ?
Pour quitter la sélection officielle un instant, la sélection des longs métrages, mais on reste en Égypte puisque ce qu'on en parle, il y a un documentaire dont on a beaucoup parlé cette année, c'est un documentaire qui s'appelle Sujet tabou, ça dure une heure à peu près, c'est assez court mais c'est très intéressant, c'est une caméra et un journaliste qui se promènent, qui vont voir les gens dans la rue, on est au Caire, en Égypte, et qui leur demandent quels sont les tabous dans les relations aux femmes. Ils posent plein de questions autour de ces thématiques-là. Qu'est-ce que c'est l'honneur chez les hommes, puisqu'on parle d'honneur chez les femmes, à partir de quel moment il peut y avoir des relations entre un homme et une femme. C'est des relations entre les sexes, mais c'est aussi des relations par rapport à la société, par rapport à la religion. C'est un film qui franchit ce qu'on pourrait dire assez allègrement les lignes rouges de la religion, quand elle est imposante, la religion musulmane. Et ça pose toutes ces questions-là, et c'est intéressant parce qu'on voit des femmes qui sont dans des situations très traditionnalistes, qui vont dire, moi si ma fille elle a fait l'amour avant le mariage, vous savez même pas ce que je vais faire, je vais la tuer, qui répond très simplement devant la caméra, mais qui répond ce genre de choses. Et puis on a en même temps des jeunes hommes, par exemple, qui vont expliquer que la génération de leur père, c'est plus leur génération, que même si c'est une société qui reste encore très ancrée par la tradition et par une certaine vision de la religion, et ben eux, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de relations plus équilibrées, plus simples, plus direct en fait avec la femme avec qui ils vivent. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Sujet tabou, qui est très intéressant.
Oui, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec Saad Hindaoui, qui est le jeune réalisateur de ce documentaire. Je lui posais la question sur la façon avec laquelle ce documentaire a été perçu d'abord en Égypte. Ben, c'est vrai qu'en Égypte, c'est quand même c'est l'un des grands pays arabes, plus de 100 millions d'habitants, hein. Et bien sûr, il m'a dit, donc là, il a vraiment provoqué un débat très très vif, et c'est ce qui est le but. Et dans les autres pays arabes aussi, et il a été projeté en Tunisie, hein, et il a été plus ou moins bien reçu ou mal reçu, d'après le réalisateur. Il a été aussi projeté dernièrement, l'année dernière, c'était dans le festival méditerranéen de Tétouan, qui est, le petit jumeau, frère jumeau, hein, ils n'ont pas les mêmes moyens, hein, de celui donc du nôtre, de Montpellier. Hein. Il a dit quand même qu'il a été, donc très bien donc apprécié donc au Maroc. Hein. Et ce sont surtout, bon, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en Égypte, hein, ce sont surtout les femmes, mais quelle que soit leur couleur ou leur faciès, voilées ou pas voilées, et ce sont ces femmes qui ont aimé le film. Parce que c'est vrai, hein, le sujet de la virginité, hein, vous savez, hein, quand on ne va pas être vulgaire, ce n'est pas notre cas ici à Divergence. Mais voilà, donc les rapports sexuels peuvent se faire d'une autre façon et on va laisser les auditeurs comprendre la suite.
S'imaginer, oui. en tout cas, pour la compétition des longs métrages, ceux qui veulent en savoir plus, les prix sont remis ce samedi à 18h30 au Quorum.
Alors, on peut parler aussi de la bourse d'aide c'est au développement,
c'est ça, bourse d'aide au développement des films. Voilà. C'est plus long exact, voilà. Mais en
donc
fait,
voilà. C'est sur une base de scénario. Donc il y a 16 concurrents qui viennent bien des pays de la Méditerranée. Et hier a eu lieu la remise des prix, donc avec 7 prix qui vont de 3 000 € à 7 000 €. Il y en a 4 à 7 000 €. Et voilà, bah, c'est des films très très divers hein, qui ont gagné.
Tu as des noms des pays qui ont
Israël, un projet tunisien, un projet marocain, un projet français, celui de Philippe Faucon et de sa femme. Et puis sans doute deux autres projets dont j'ai oublié. Peut-être un projet algérien aussi. Voilà.
C'est vraiment un vrai coup de pouce.
Oui. Ça conforte le producteur. Il se dit que bon, voilà, il a déjà 7 000 € dans la caisse et il peut aller voir ensuite d'autres financiers.
Comme dirait une des attachées de presse du festival, quand on a 7 000 € d'aide pour lancer un film, quand on s'appelle Martin Scorsese, on n'en a rien à foutre. Mais quand on est un jeune réalisateur, ça enlève un poids énorme.
Exactement.
Et sachant qu'un des gagnants, hein, Philippe Faucon, est pas un petit nouveau. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé des films avec des budgets relativement modestes, mais qui en est déjà à 5-6 longs métrages. Voilà. Donc ouais. Ça veut dire que c'est tout le temps difficile de monter des films, et plus encore maintenant. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la part des réalisateurs et des producteurs au Cinémed, c'est que cette année, depuis la crise, quand même, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ouais.
Alors donc, on a parlé donc des longs métrages en compétition, des documentaires. À la façon divergente, parce que c'est très difficile de parler de tout.
Il y a 250 films, on ne peut pas parler de tout.
On ne peut pas. Les courts-métrages, apparemment, plus ou moins, notre monsieur cinéma est plus ou moins...
Je suis passé à côté, moi. Ouais.
À côté. Par contre, moi, j'ai vu en sélection en officiel Panorama, des bons courts-métrages. Hein. Alors... Cette année, ce qui est donc, j'allais dire, plus que frappant, mais remarquable, c'est ce thème, la diversité. Hein. Si tu te rappelles, Sébastien, ça fait 2 ans, on a fait une émission. On avait dit qu'il n'y avait pas donc assez de place pour les films de la Sud-Méditerranée. Je pense que cette année, la diversité culturelle a donc toute sa place et a eu donc toute sa place donc ce festival.
Mais la diversité culturelle dans ce festival, il me semble qu'elle a toujours été présente parce que ça reste un des éléments de base. C'est un des points communs avec ton émission de Jamal, c'est la volonté de faire un pont entre les deux rives de la Méditerranée, que ce soit d'est en ouest ou du nord au sud, hein, on parle dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'on en parlait déjà l'année dernière, déjà il y a 2 ans, je suis sûr qu'il y a 20 ans, ils en parlaient déjà au festival, c'est de parler de l'inégalité de financement des films, que ce soit au sud ou au nord. Évidemment, les films du nord de la Méditerranée ont plus de moyens financiers, matériels, etc. pour faire leurs films que les films du sud. Il y a aussi le problème qui vient après, la distribution du film, ça aussi c'est toujours très compliqué. Encore plus, on parlait de films égyptiens, bon ça va encore, mais un film tunisien diffusé en France, ça reste assez rare. Donc un film tunisien diffusé en Égypte ou en Italie, c'est pas toujours simple non plus. Ce qu'ils ont voulu faire cette année dans ce cadre de ce programme de la diversité culturelle, c'est plus mettre en avant des réalisateurs qui, eux, vivent entre deux pays méditerranéens, qui vivent entre deux pays et qui ressentent et remettent cette ambiance et ces questionnements de double culture dans leurs films. C'est ça qu'ils voulaient mettre en avant. Alors, on a un réalisateur dont j'ai complètement oublié le nom, qui vit à Casablanca maintenant, mais qui est né à Paris, qui est entre les deux, qui est entre le Maroc.
Nabil Ayouch, peut-être.
Nabil Ayouch, merci Vincent. Qui lui, est un bon exemple de ce qu'ils ont voulu faire cette année, c'est montrer... des films qui parlent de deux rives différentes.
Mais enfin, tout ce que tu dis est très exact. Hein, mais après, il y a un autre critère, c'est celui de la qualité du film. Parce que Jean-François Bourgeot le dit souvent.
Le directeur du festival.
Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des films syriens, qu'il y ait plusieurs films, je ne sais pas, peut-être jordaniens. Mais après, c'est la qualité. Il ne peut pas sélectionner un film tout simplement parce que il va montrer de la diversité sur les écrans du quorum. Il faut absolument que ce soit un film de cinéma, proprement, quoi. Et alors là, c'est vrai qu'avec Nabil Ayouch, qui n'est pas en compétition, hein, c'est simple parce que c'est un vrai cinéaste. C'est quelqu'un qui a vraiment un œil de cinéaste. Donc là, c'est coup gagnant. Après, dans la sélection officielle, c'est vrai que je pense que d'année en année, c'est jamais vraiment la même chose. Et c'est effectivement bien souvent, les pays qui savent produire et qui peuvent produire les films, comme Israël.
Ou
comme l'Égypte. Mais l'Égypte ne produit pas tant de films que ça. Je crois que le Maroc, maintenant, en produit beaucoup plus. Voilà. Notamment. Mais c'est vrai que pour...
Ça va faire plaisir à Jamal, ça.
Ah non, moi, il n'y a pas de chauvinisme là-dessus. Moi, je voudrais je voudrais insister sur ces réalisateurs des deux rives qui ont cette double culture et qui gardent quand même cette passerelle entre le nord et le sud. Et c'est vrai, moi j'ai vu dernièrement le film de Fatih Akin, de l'autre côté, hein, ce qui est, bon, Fatih Akin est un réalisateur germano-turc, hein, d'un talent immense, avec un film vraiment mais magnifique. Hein, c'est-à-dire les gens qui ont cette double culture, à la fois, ils arrivent à montrer, donc, j'allais dire, à la fois ce qui est de meilleur des deux côtés, et puis pointer donc, ce qui ne va pas donc, des deux côtés.
On se demande même, enfin, oui. on se demande même si c'est pas à chaque fois leur rôle. Enfin, moi, c'est des discussions parce que j'ai suivi la table ronde sur la diversité culturelle justement avec Nabil Ayouch notamment, et puis aussi Pierre Murat qui est critique à Télérama. Et la question que j'ai posée à Pierre Murat, c'était finalement de dire avec Abdelatif Kechiche, donc le réalisateur de La Graine et le Mulet, de L'Esquive, avec Rabah Amerzaïmeush, réalisateur de Blade Number One et de Wesh Wesh Wesh. Eux, ils ont cette double culture, parce qu'ils sont issus d'immigration, et ils nous racontent des histoires d'immigrés. Fatih Akin, qui est germano-turc, et aussi immigré, nous raconte des histoires d'immigrés. Et au bout d'un moment, la question, c'est de savoir à quel moment on peut ne plus raconter une histoire qui nous concerne. À quel moment un réalisateur d'origine étrangère va nous raconter autre chose que son histoire ou que celle de ses aïeux.
Ben, Nabil Ayouch, dans le film Alizawa, le prince de la rue, hein, c'était pas une question d'immigration.
Non, mais il nous parle de son pays. Oui, lui.
Mais lui c'est le contre, premier. Oui. Il a vraiment pointé le problème des enfants de la rue du Maroc. Les gens au Maroc, quand ils ont vu ce film qui est sorti en 2000, il y a des gens qui disaient mais c'est pas possible. Ces gens-là, je les voyais tout le temps et je les voyais pas en même temps. Et après le film. Et là, vraiment, il y a eu quand même, bon, entre parenthèses, sorte de prise de conscience pour voir quand même. Et c'est vrai, il y a des enfants de la rue. Hein, et...
On peut peut-être passer d'ailleurs une interview, parce que moi, je l'ai vu hier, Nabil Ayouch. Donc, il y avait une projection de Alizawa, donc, le film dont tu viens de parler, hier, avec plus de 190 personnes venant de la paillade, de diverses associations de la paillade. C'était des femmes. C'était des femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma. Enfin, elles vont quand même au cinéma Louis Feuillade à la Paillade parce qu'il y a des projections qui sont organisées. Mais elles n'avaient pas vu pour la plupart le quorum. Elles passaient devant mais ne savaient pas ce qui se passait dedans. Et elles sont venues aussi avec leurs enfants. Elles ont vu donc ce film. Et j'ai demandé à Nabil Ayouch ce qu'il en avait pensé.
C'est un film plus précisément sur les enfants de la rue qui met en scène les enfants de la rue du Maroc. Même si l'histoire, elle, est complètement universelle, parce qu'elle aurait pu prendre place partout, malheureusement, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est une projection un peu particulière, parce qu'il y avait ces femmes qui venaient d'un quartier de Montpellier, où visiblement, d'abord, il ne se passe pas grand-chose au niveau culturel. Et puis, l'initiative du festival, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est au lieu, comme il se fait d'habitude, d'aller vers elles, l'idée, ça a été de les faire venir dans une salle du centre de Montpellier, pas n'importe laquelle en plus, cet opéra Berlioz. Ici dans le centre-ville. Alors évidemment, c'est toujours un peu particulier parce que d'abord, il y avait une majorité de Marocains, de Maghrébins en général, mais de Marocains en particulier. Et puis surtout, il y avait deux générations avec une d'écart au milieu parce qu'il y avait beaucoup de dames d'un certain âge qui ont laissé leur mari à la maison et qui sont venues avec leurs petits-enfants. Et c'était assez chouette parce que le film, comme d'ailleurs au Maroc, à l'époque où il est sorti, et il a été reçu évidemment très différemment par des gens qui sont un peu traditionnalistes, pour qui le langage est très important, et en l'occurrence dans le film, il y a un vrai langage de la rue, parce que je voulais cette vérité-là dans la bouche des enfants, parce qu'en l'occurrence, les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont des enfants de la rue que j'ai rencontrés pendant la préparation du film, qui parfois pouvaient être choqués par certains mots, certaines expressions, certaines scènes, et puis leurs petits-enfants qui étaient là leur dire bah, « Arrête, mamie, c'est comme ça, c'est bien, c'est normal. » Donc c'était une projection assez chouette.
Alors il y a eu quelques mots, hein. Vous avez même, pour un peu délier la parole, dit à ces femmes « Bon, bah, si vous voulez vous exprimer en dialecte, enfin, allez-y. » Et il y a effectivement une femme qui vous a dit quand même, il y a une image que vous auriez peut-être pas dû montrer, c'est celle qu'on voit à travers la serrure d'une prostituée, enfin, alors que bon, il y a beaucoup de pudeur hein, quand même dans cette scène, mais c'était déjà trop. Hein.
Ouais, non mais vous avez tout très bien résumé, effectivement, la scène en soi est absolument pas explicite. Enfin, bon, elle peut l'être, mais enfin, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est pas grand-chose. Et pourtant, ça a suffi effectivement à la choquer. Et elle me disait, bon, le film était très bien, tout était très bien, mais bon, cette scène, il fallait pas la mettre parce que nous, on peut pas voir ce genre de scène. Mais c'est des réactions que j'ai rencontrées aussi au Maroc. Ceci étant, pour être tout à fait honnête, les femmes. Des populations immigrées du Maghreb qui habitent en Europe, elles ont souvent la réputation, et c'est pas une réputation feinte ou inventée, d'être beaucoup plus traditionnalistes et beaucoup plus à cheval sur ce genre de choses que les Maghrébins du Maghreb. Et on a pu le vérifier effectivement aujourd'hui par la réaction de cette dame.
Voilà, bah c'était Nabil Ayouch hein, hier, donc suite à la projection de son film, où participaient donc des femmes de la Paya, du quartier des Cévennes, du Petit Bar, et puis leurs enfants. Voilà.
Est-ce qu'il y avait des questions donc de la part des femmes de la Paya
Mis à part effectivement, elles ont salué le film. Alors ça s'est débloqué quand Nabil Ayouch a dit les femmes, vous pouvez parler effectivement en marocain, je comprends et je vous répondrai. Là, il était question de ce qu'il disait juste à l'instant, c'est-à-dire cette scène avec la prostituée qui est plutôt mal passée, alors que c'était une scène plutôt plutôt pudique. Hein. Elle était soft. Oui. On savait être plus ou moins bien ce qui se passait. Alors, c'est vrai que quand la scène a été projetée, il y avait les enfants qui commençaient à rire, quoi. Enfin, parce que, pour eux, c'était drôle. Après, c'était surtout... J'ai interrogé quelques enfants. Pour eux, ils ont trouvé cette histoire hyper attachante, un peu dure, parce que c'est aussi... c'est une fille qui m'a dit ça, effectivement. Ben voilà, moi, j'ai beaucoup plus de chance qu'eux, quoi. Enfin, je suis pas dans la rue. Enfin, parce que c'est quand même tragique, hein, dans le film. C'est une histoire... Ça commence par la mort d'un enfant qui veut être marin.
Exactement. On se fait une petite pause musicale et après, alors je vais demander à notre Gilles de nous passer un titre d'Hakim, un maroco-espagnol. Allez.
Fatma, 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 Fatma.
Divergence FM 93.9 et l'émission Andalus, l'émission de toutes et de tous. Avec moi donc deux invités, Sébastien Nègre, journaliste et divergent de cœur et de passion, hein. Exilé en ce moment, hein, donc avec bonheur
pas de
au
force,
Québec. Et puis Vincent Pourageau, donc monsieur cinéma de Divergence FM.
Journaliste aussi,
oh là là.
J'en profite pour dire que Cinérama, c'est l'émission, effectivement, une des deux émissions de cinéma sur Divergence FM. Parce qu'il y a aussi celle de Yves Desrichard qui concerne les bandes originales de films. 24 notes par seconde. Et Cinérama se déroule le mercredi 13h30 à 14h30. Voilà. Avec une rediff.
Et ça, puis, c'était bien placé.
Bah oui.
Et puis bien sûr, Jamal, Modesto Jamal, donc animateur de cette modeste émission Andalus. Alors, tu as vu, alors on va rester dans la diversité culturelle, programmée cette année avec force dans le Cinémed 2009, et tu as vu le film iranien.
Alors voilà, moi je voulais parler d'un film iranien qui va sortir en décembre, ça s'appelle Les chats persans, donc il y avait l'avant-première. C'est un film de Bahman Gobadi, un film qui a été tourné en une semaine et qui traite des Iraniens à Téhéran qui cherchent à faire de la musique. Et il faut savoir, qu'en Iran, si on veut faire de la musique officiellement, il faut avoir des autorisations et qu'ils n'ont pas forcément. Donc ils trouvent par des moyens détournés, donc c'est ce qu'on appelle tout l'univers underground, donc qui se passe sans que les officiels soient au courant. Donc on voit la débrouille, on voit le Téhéran moderne avec une jeunesse qui se laisse pas faire, enfin tout simplement, qui trouve les moyens de faire sa musique et puis qui aspire à des rêves. Et là, tout le film, c'est l'envie d'aller participer à un festival à Londres, et c'est le moyen de trouver un visa, des papiers et puis aussi de faire une maquette. Voilà. Tout le film tient là-dessus. Alors c'est un film surprise, c'est-à-dire qu'à la fin, il se passe quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, on voit la débrouille. On voit que même quand il y a des gouvernements, enfin, qui tentent de museler, eh bien, il y a toujours des moyens de s'en sortir. C'est ce qu'on a découvert aussi avec des films, enfin, qui traitent de la période est-allemande. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il se passe rien dès qu'il y a des fascistes au pouvoir. Eh bien non, c'est faux. Il y a toujours des moyens détournés de faire son art.
Il faut parler des conditions du tournage aussi.
Bien sûr.
Que je vais faire visiblement.
Bien sûr, Sébastien. Ouais, t'as tout compris.
Il faut expliquer qu'en Iran, les caméras 35 mm, qui sont globalement le format standard, si je dis pas de bêtises, en cinéma, sont un monopole de l'État. C'est-à-dire que si vous voulez faire un film 35 mm, si vous êtes iranien, il faut les louer à l'État et donc avoir l'autorisation de l'État, etc. Le réalisateur dont on parlait ne voulait absolument pas de cela. Il a voulu quelque chose de bien plus personnel et ne pas passer par l'institutionnalisation. Donc, il a acheté une caméra, enfin, deux, trois caméras numériques. Et il a filmé ça dans des conditions assez étranges parce qu'il n'avait aucune autorisation pour filmer. Donc il filmait dans les rues de Téhéran, mais de manière cachée. C'est-à-dire qu'il filmait, mais il fallait que les prises de vue soient très rapides parce qu'on pouvait toujours avoir des policiers en civil ou en uniforme, tout simplement, qui débarquent et qui enlèvent le matériel, enfin tout un tas de choses dans les pays où il n'y a pas une grande liberté, comme l'Iran. Et ces conditions de tournage-là, dans un climat de promiscuité cinématographique, qui font aussi l'intérêt de ce film, les conditions du tournage eux-mêmes.
Sachant qu'en plus, c'est un film très très rythmé, justement parce que les conditions de tournage imposaient, enfin, de faire des courtes séquences. Après, il y a beaucoup de séquences intérieures, mais c'est vrai qu'il y a des séquences merveilleuses qui sont filmées à l'extérieur. C'est un film tellement courageux qu'il pourra jamais retourner dans son pays, l'Iran, enfin, je pense pas, et que c'est vraiment différent de beaucoup de la filmographie officielle, estampillée officielle de l'Iran, avec des Abbas Kiarostami qui font un cinéma très très auteuriste, qui prend son temps, qui a ses qualités, mais là c'est un regard vraiment différent sur le Téhéran moderne, ce que vivent les jeunes Iraniens en ce moment. Et contrairement à ce qu'a dit Jean-François Bourgeot, qui a expliqué juste avant le film qu'il faisait du rock comme on en faisait il y a 50 ans en France, c'est un gros gros a priori sur ce que vivent les Iraniens, parce que non, ils font du rock tel que nous on le fait. Ils ont internet, c'est ce qu'on voit dans le film, ils ont internet, ils savent ce qui se passe ailleurs, faut pas rêver. Et eux, ils ont envie de participer aussi à cette aventure du rock.
Mais tu l'as bien résumé, parce que c'est pas parce qu'il y a la censure. C'est vrai que dans ces pays où il y a la censure, les gens trouvent toujours donc des moyens pour faire des choses pas avec autant de liberté, mais il y a vraiment des choses qui
se passent. Ils s'enterrent, ils se mettent dans les caves, ils font en sorte que le son ne s'entende pas, parce que sinon ils sont dénoncés par les voisins. Enfin, on voit tout ça. Hein. Et ça sort le 23 décembre, voilà, ça sortira au cinéma Diagonale le 23 décembre, juste avant Noël.
Alors, l'émission donc touche à sa fin. Alors, Sébastien, l'œil intérieur du cinéma de 2009.
On dirait 1984, l'œil intérieur. Bah, s'il faut conclure et dire deux mots, on peut peut-être parler de la programmation de demain dimanche avec deux films que moi je conseille fortement parce que c'est deux films que j'aime beaucoup et je vais pas me lasser d'aller les revoir. C'est L'homme qui aimait les femmes, un film de François Truffaut de 77 qui était tourné à Montpellier. Donc pour ceux qui connaissent peu Montpellier ou qui savent pas comment était la comédie il y a à peine 25 ans, ça vaut le coup. Il y avait la route nationale sur la comédie, mais c'est pas pour ça qu'on ira voir le film, c'est pour l'histoire. C'est un homme qui passe son temps à draguer les femmes, à essayer de séduire les femmes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, et c'est l'homme qui aimait les femmes. Ça me fait beaucoup penser à certaines personnes de cette radio dont je tairai les noms. Mais voilà, ça c'est à 16h. Et puis un autre film, le film de clôture du festival, c'est à 20h. Ça s'appelle Le Fanfaron, un film de Dino Risi, un film italien de 62 avec Vittorio Gassman, l'autre acteur, je n'ai plus son nom en tête. Mais c'est l'histoire de deux hommes au début des années 60 en Italie. Il y en a un qui est très sage, l'autre qui est très, très foufou. Ils vont partir sur les routes, je raconte. Je ne raconte pas le contexte, mais c'est un film très drôle et très, très intéressant. Ça s'appelle Le Fanfaron et c'est à 20h demain.
Seb, aimer les femmes, ce n'est pas un crime.
Je ne parlais pas de moi. Je parlais pas de moi.
Évidemment, il s'excluait complètement de ce jugement un peu péremptoire.
Vincent
moi, je vais parler de la soirée spéciale ce soir. C'est une avant-première parce que traditionnellement, le dimanche, c'est le premier film qui ouvrira le ciné-club.
Jean Vigo, la saison du Jean Vigo, qui est la projection de film à l'année. Oui.
Et là, ce soir, c'est Tétro, le dernier film de Francis Ford Coppola, donc Apocalypse Now, ce grand chef-d'œuvre du cinéma. Donc, il est passé à des films un peu plus intimistes. Mais c'est avec Vincent Gallo. C'est un film tourné en Argentine, donc ça c'est ce soir. Et puis demain, L'homme qui aimait les femmes, c'est dans le cadre de la carte blanche offerte à Emmanuel Mouret, qui est venu avec ses actrices encore aujourd'hui. Alors j'ai pas l'horaire de la table ronde, mais voilà, c'est Emmanuel Mouret a choisi un certain nombre de films. Et puis il y a
table ronde à 16h.
Super Seb. Et donc aussi, on peut voir aussi encore quelques films de Emmanuel Mouret qui fait dans le burlesque et qui s'interroge et bien sûr les sentiments amoureux, quelles sont les conséquences d'un baiser, enfin et ainsi de suite. C'est un cinéma plutôt réjouissant, voilà.
Bon, Vincent, pour toi donc ce cinéma de 2009, c'est une réserve inépuisable. Je sais que tu fais pas mal d'interviews, t'as pas mal de comment tu vois l'avenir donc de ce festival?
Je pense que ça va continuer, mais ce qui pose question quand on discute avec les réalisateurs et les producteurs, c'est vraiment après le financement des films. Donc là, il y en a 250. Il y en a 250, mais comme on y puise dans les hommages italiens, les films des années 70, forcément, ça a déjà été tourné depuis longtemps. Mais c'est parmi les films qui seront dans les futures sélections. Voilà, on peut se demander s'il y aura autant de diversité et si les films syriens vont pas disparaître.
Je rappelle quand même que le film syrien, c'est un film politique qui parle donc de la sortie donc de trois prisonniers politiques. Un film vraiment très très subtil que j'ai vu qui entre le théâtre et le cinéma parce que la plupart des acteurs ce sont donc des acteurs de théâtre, mais c'est un très 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 bon film. Alors Seb, tu vas repartir de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Est-ce que les gens du Québec connaissent Montpellier et le cinéma de 2009?
Alors le cinéma de moi, j'ai jamais rencontré personne qui connaissait là-bas. Après, je ne connais pas tout le monde, évidemment. Par rapport à Montpellier, on va dire qu'il y a peut-être un quart des gens qui connaissent, mais ça, c'est parce que soit quelqu'un est venu faire un an d'études ici, le cousin, le voisin, l'oncle de la grand-mère, qui vous voulez, qui a passé un an à rien faire à part boire. Ou alors c'est les gens qui viennent 3 mois en Europe avec un sac à dos parce que comme ils sont très loin, ils vont pas venir juste dans un pays pour une semaine. Donc les jeunes qui vont partir 3 mois en sac à dos et qui passent par Montpellier parce qu'ils étaient à Paris et qu'ils veulent aller en Espagne. Et puis les 3/4 des gens, ils connaissent pas Montpellier tout simplement. Ce qui est tout à fait normal, mais contrairement à ce qu'on croit ici, il y a des gens qui connaissent pas Montpellier, voilà.
Cette émission, elle était belle, hein, avec la présence.
Tu pourrais nous dire quand même ce que tu as pensé du cinéma ou qu'est-ce que tu...
Ah oui,
qu'est-ce que tu en attends,
tu me poses la question.
Bah oui.
Alors, moi, je trouve que cette année, donc, c'est plus riche et c'est plus diversifié. Parce que moi, je le suis depuis à peu près 7 ans, 8 ans, hein, régulièrement. Et c'est vrai qu'il y avait des années où la Méditerranée du Sud était complètement absente. C'est pas par manque de films, mais c'est par volonté donc d'aller chercher des films là.
Je suis pas sûr, Diamond.
Non, non, mais il y a, écoute, il y a des festivals qui se déroule au Maroc, à Carthage, en Tunis, en Égypte. Et je pense que là, maintenant, moi, j'ai écouté Henri Talva, qui est devenu
le
président d'honneur. Donc, du
président tout court.
Le président tout court, qui est, donc, j'allais dire, un avocat maintenant de la diversité donc méditerranéenne. Donc, c'est... Non, je trouve que c'est une très, très bonne évolution. Et pour que ça puisse continuer, il faut cette coopération. Il faut tendre la main, donc, de l'autre côté, parce que faire des films dans le Sud, ce n'est pas aisé, hein, et on le sait. Donc, c'est la différence de richesse entre le Nord et le Sud. Mais moi, j'ai trouvé... Moi, c'est un très bon festival. J'allais dire, c'est un très bon cru, donc, cette année. Et puis... voilà, alors on se dit au revoir et puis...
à l'année prochaine.
À l'année prochaine, oui.
Merci Jamal, en tout cas, de ton invitation.
Merci Jamal.
Merci Gilles et à la semaine prochaine.